Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 janvier 2021 et je voudrais revenir quelque peu sur la Parasha Vaera et essayer de comprendre les rapports intimes entre Moshe et son frère aîné Aaron et les 10 plaies d'Égypte. D'abord, il faut comprendre que Moshe a fait le lien en toute intimité entre Elohim, les forces de la nature, et Yud-Kevav-Ké, le Dieu caché derrière ces forces de la nature, toutes forces confondues, bien entendu. Moshe reçoit l'ordre de Dieu d'aller parler à Paro. Qui est Paro? Qui est Pharaon? Alors, comme on le sait, Pharaon descend de cette force reliée à la faute d'Adam Harishon, la faute de l'homme universel qui, on le sait, par son côté féminin, a voulu profiter de la vie, rentrer dans le monde du désir et du plaisir et séparer Yud-Kevav-Ké de son monde. De cela, il y a eu une multiplication de forces dans ce monde. Il y a eu, dans cette multiplication de forces, toutes sortes d'âmes qui sont rentrées dans ces mondes, qui se sont elles-mêmes obscurcies en fonction de cette descente. Nous savons que l'Égypte de Pharaon comprend en elle l'ensemble de ces âmes qui ont erré, qui ont fait, comme on dit en hébreu, de la Avodah Zara, qui ont recherché un dieu étranger, et ils sont tombés, si vous voulez, dans le monde de Nimrod, le monde de la séparation, le monde du grand mélange, les forces de Babel, qu'on retrouve, on le verra tout à l'heure, bien entendu, aujourd'hui. Il a fallu réparer ce monde. Et pour réparer ce monde, c'est-à-dire donner un sens à l'histoire de ces âmes perdues, HaKadosh Baruch Hu, le Dieu maître de l'histoire, le Dieu de la parole vraie, a demandé à Moshe de parler, mais par l'intermédiaire de son frère Aaron. Il y a la parole de Moshe, la parole de type masculine, Moshe reçoit de Dieu, mais Moshe n'intervient pas en fait. La réalisation, notamment lors de leur première rencontre avec Pharaon, se fait par l'intermédiaire de Aaron, son frère. Aaron, lui aussi, parle. Mais il agit. Il agit, d'accord? C'est-à-dire qu'il va véritablement faire l'union en lui des deux contraires. Il parle parce qu'il reçoit de Moshe la parole. Et là, il y a une symbiose entre les forces masculines de Moshe et les forces masculines de Aaron. Puis, dans Aaron, il y a cette relation, liaison intérieure très intime entre la réception masculine et la réalisation féminine. Aaron, étant évidemment le grand prêtre, étant évidemment l'homme saint, étant évidemment l'homme du shalom, eh bien, Aaron HaKohen va avoir la capacité de réunir en lui le féminin et le masculin. Le masculin, il va le recevoir de Moshe. Dieu parle à Moshe et dit à Aaron. Donc il y a deux types de paroles. Une parole masculine et une parole masculine reliée au féminin. Et ça, c'est fondamental. Parce que lorsque Aaron, avec Moshe, bien entendu, va parler et va réaliser, notamment les interventions de Dieu, par le bâton qui devient serpent, par le Nil qui devient sang, etc. Eh bien, Pharaon ne peut pas comprendre. Pourquoi ? Parce que Pharaon est dans le monde d'Elohim. Il faut comprendre que l'Égypte vit dans ce monde d'Elohim. Ce ne sont pas des idiots, loin de là. Les Égyptiens n'étaient pas des êtres esclaves qui allaient sans comprendre, pas du tout. Le monde de l'Égypte était un monde, certes, d'esclavage, mais d'esclavage d'abord avant tout spirituel. Ils vivaient dans un monde clos, un monde fermé, et chacun vivait dans son propre monde fermé, dans sa propre vérité. La vérité était éclatée en Égypte, donc elle était absolument mélangée. Il n'y avait aucune possibilité de comprendre qu'il y avait une vérité première et une seule. Moshe arrive avec son frère Aaron, avec cette vérité première, que les Égyptiens, tout doués soient-ils, tout intelligents étaient-ils, n'avaient pas la capacité de saisir. Pourquoi ? Parce qu'ils vivaient dans le monde d'obscurité de l'Égypte. Qu'est-ce que c'est que l'Égypte ? C'est un système qui est certes extrêmement développé, il ne faut pas croire. À l'époque, on était capable, l'Égyptien moyen a été capable, avec la sorcellerie, avec la parole, de prendre la terre et d'en faire un robot, un homme marchant dans la rue, disent les Rachamim. Il y a énormément de midrashim là-dessus. Il ne faut pas croire que l'Égypte était une civilisation antique, fermée, j'allais dire idiote, pas du tout. C'était un monde qui était arrivé à un très haut niveau de connaissance du monde d'Elohim. L'Égypte remplissait l'univers. Parce que l'Égypte découle de l'Égypte créée par la faute d'Adam Harishon. Et cette Égypte créée par la faute d'Adam Harishon, eh bien, elle va se refléter dans toute l'histoire humaine jusqu'à l'arrivée du libérateur final, le Machiav ben David. Donc, cette force de Aaron, reliée bien entendu à son frère Moïse, était absolument inconnue de Pharaon. Pharaon, bien entendu, connaissait le Dieu 1, mais il ne connaissait pas le Dieu 1 des Hébreux. Il connaissait le Dieu 1 parmi d'autres dieux. Il y avait le Dieu 2, le Dieu 3, si je peux me permettre ainsi, le Dieu Aton, etc. Chacun créait son Dieu. Et qu'est-ce que c'est qu'un dieu pour les Égyptiens ? C'est une force d'Elohim. C'est une force intermédiaire. C'est une force qui existait. Ils étaient dans le vrai, mais dans le vrai tronqué. Dans le vrai qui devenait, en fin de compte, faux. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la capacité d'union des contraires. Or, Aaron va faire l'union des contraires. Et lorsqu'il va recevoir la parole de Moshe, qui lui va recevoir la parole de Dieu, eh bien Aaron va pouvoir réaliser Moshe étant relié à Dieu, et la parole de Moshe liée à Dieu va être transmise à Aaron, le côté masculin d'Aaron va transformer cette parole en réalisation, en acte. C'est ça la force d'Israël. Exactement, c'est ça la force de l'Hébreu. L'Hébreu ne va pas rejeter le monde de l'Égypte. Il va tout simplement dire que dans le monde de l'Égypte, il y a Dieu caché. Et le Dieu caché est un Dieu un Dieu unique, un Dieu resplendissant, un Dieu transcendant et immanent, un Dieu qui est toujours présent. C'est le Dieu vivant, maître de l'histoire. Le seul Dieu vivant, maître de l'histoire. Et donc, les plaies, on y reviendra. C'est la pédagogie de l'histoire que Dieu, maître de l'histoire, va inculquer progressivement à Pharaon, qui lui n'a pas la capacité de faire le nom des contraires, ne descendant pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que les premières plaies vont être évidemment liées directement au monde d'Elohim, la nature, les grenouilles, je dis ça évidemment en vrac, le sang du Nil, c'est-à-dire véritablement que le monde d'Elohim va être perturbé par une surnature, par des éléments jusqu'à la grêle, qui à la fois mélangeaient l'eau et le feu, la septième plaie. Pourquoi septième plaie dans la paracha Vaïra? Pourquoi il n'y a que sept plaies? Parce que nous sommes dans les sept jours de la création. Nous sommes dans les sept jours, véritablement, où au septième jour, il y a le Shabbat. Et qu'est-ce que c'est que le Shabbat pour l'Égypte? C'est, attention, arrêtons. Qu'est-ce qui se passe là? Nos experts ne sont plus capables de comprendre ce qui se passe. Le monde va trop vite. La dynamique de l'histoire s'accélère. Le monde devient oppressant. L'atmosphère devient lourde. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtons un peu. Ça, c'est le monde, c'est le Shabbat de l'Égypte. Mais le problème, c'est que Dieu renforce le cœur de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il faut aller au chiffre 10. C'est quoi le chiffre 10? Les 10 plaies. C'est tout simplement le Yud. S'il n'y a pas la formation du Yud ici-bas, mais par son contraire, par les plaies, ça veut dire en fin de compte, les plaies, ce sont les instruments de guérison de l'Égypte. Les plaies, c'est le médicament, si je peux me parler ainsi, de l'Égypte. Sans les 10 plaies, l'Égypte ne peut pas reconnaître le Dieu maître d'Israël. Et ces 10 plaies-là, qui jouent un rôle fondamental en fait, parce qu'elles ont un ordre, parce qu'elles ont une dynamique, parce qu'elles ont une, si vous voulez, une signification propre, intime, qui fait que Pharaon va comprendre. Pharaon n'était pas bête du tout. Pharaon était enfermé en Égypte. Merci beaucoup.